France Info.
Bonsoir, pas de répit pour François de Rugy, son ex-directrice de cabinet parle. Sécurité renforcée ce 14 juillet après les violences des supporters de l'équipe de foot d'Algérie. On en parle avec vous Virginie Le Petit. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Chef d'édition à Courrier International avec Soazic Kemener.
Bonsoir.
Bienvenue à vous également, rédactrice en chef politique à Marianne. Invitée Chloé Morin. Bonsoir, bonsoir Chloé. Politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos. Et bienvenue aussi à Emmanuel Bachelry. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Jean.
Communicant, directeur général de la Brest Ultime Selling et expert associé à la Fondation Jean Jaurès. Nous sommes ensemble jusqu'à 21h à la radio, à la TV, sur le canal 27 de la TNT. Il a voulu sauver sa tête en offrant la mienne. Elle l'a dit dans Ouest France. Nicole Klein, limogée de ses fonctions de directrice de cabinet par François de Rugy pour avoir occupé un logement HLM, a libéré sa parole. Ses mots tout à l'heure sur l'antenne de France Inter.
C'était un moment d'une grande violence. Bon, la première violence, évidemment, ça a été l'article de Mediapart. Hein, le moment où le journaliste s'est pointé devant ma porte à 9h du soir. Ça, c'était évidemment très violent. Et la manière dont le ministre d'État a réagi était aussi extrêmement violente parce que je ne m'attendais pas finalement à un licenciement brut puisque je n'ai eu pas de temps pour m'expliquer. Alors qu'évidemment, quand on explique les choses, elles sont beaucoup plus acceptables. Il y a eu un décret mettant fin à mes fonctions ce matin. Je ne suis plus directrice de cabinet, c'est ainsi, hein, c'est la vie aussi des hauts fonctionnaires, justement. Mais c'était la manière dont ça a été fait a été très brutale et très inélégante.
Soazic Kemener, elle est cash, Nicole Klein, c'est carré, hein.
Oui, alors, est-ce qu'il y a une faute de Nicole Klein? Sans doute, hein, puisqu'elle habitait dans un appartement HLM, elle avait bénéficié d'un appartement HLM depuis 2001 où elle ne résidait pas en permanence. Première chose, mais est-ce qu'il y a eu la moindre indulgence de la part de François de Rugy, la même indulgence dont il bénéficie aujourd'hui, hein, c'est tout le problème de cette histoire, c'est deux poids, deux mesures. Donc Nicole Klein est très très fâchée. Il faut savoir que Nicole Klein, elle était très soutenue au sein de l'exécutif, au gouvernement, on aime beaucoup Nicole Klein et ce choix de François.
Parce qu'elle avait notamment géré, entre autres, voilà, Notre-Dame-des-Landes.
L'affaire ouais. Notre-Dame-des-Landes. Hein, on sait que dès le début, quand Édouard Philippe arrive à Matignon, c'est le point noir, hein, Notre-Dame-des-Landes. Et finalement, on n'en parle plus au bout de quelques mois de Notre-Dame-des-Landes. Et maintenant, c'est plus du tout un sujet. Donc, ce limogeage, c'est la faute de De Rugy. Et c'est sans doute ce qui fera, in fine, qu'il tombera.
Ouais, Virginie Le Petit, elle a fait front aux zadistes, hein, cette Nicole Klein. Oui. Donc, François De Rugy, même pas peur, hein.
Même pas peur. Enfin, tout ça sent la précipitation, en fait. On sent qu'il ne sait plus tellement comment faire. Et effectivement, c'est une façon de détourner l'attention. Malheureusement, ça va vraiment revenir en force contre lui. Ça peut pas rester aussi...
Pour vous, ce n'est pas anodin, cette déclaration. Alors, elle s'exprime dans Ouest France. Ensuite, sur des ondes, notamment celle de France Inter.
Ben non, c'est pas anodin dans la séquence des événements. C'est pas anodin, alors que par ailleurs, il se passe tout ce... Enfin, les révélations de Mediapart ne cessent d'alimenter, le train de vie de François de Rugy est remis en question. Et donc, il est absolument intransigeant vis-à-vis des autres. Il ne l'est pas vis-à-vis de lui-même. Voilà, c'est le deux poids deux mesures dont on parlait tout à l'heure. Donc, bien sûr que c'est pas anodin.
Emmanuel Bachelry, elle est en retraite de la préfectorale. Elle a le droit de s'exprimer. Nicole Klein, ça fait mal pour François de Rugy. Ce qu'elle dit, notamment, il a voulu sauver sa tête en offrant la mienne.
Le
côté fusible, un petit peu.
Voilà, oui. C'est ce que j'allais dire, c'est que les fusibles, c'est assez commun en politique. Ça. C'est un rideau, puis un deuxième rideau, puis un troisième rideau. La question maintenant qui va se poser, c'est est-ce qu'il va rester et surtout est-ce qu'il peut rester. Ça va être la question des prochaines heures ou des prochains jours. Alors, il a...
C'est quand même la question qui est posée depuis le premier jour, depuis les premières publications de Mediapart.
Oui, hein. Sauf qu'il a eu un tir groupé à la fois de l'Élysée et de Matignon qui l'ont protégé en disant il faut s'expliquer, il faut le cas échéant rembourser, mais il n'y a pas de débat, il n'y a pas de sujet. En l'occurrence, il y en a quand même un. Il y a quand même un vrai sujet symbolique. Et c'est pour ça qu'à chaque fois que j'entends parler de cette histoire depuis 72 heures maintenant, à chaque fois je me dis mais à la fois c'est à la fois très simple et très compliqué, c'est en même temps ridicule mais en même temps essentiel. Donc c'est pour ça que c'est complexe la situation à lui.
Qu'est-ce qui serait simple et compliqué à vos yeux, Emmanuel?
C'est simple parce que symboliquement il y a faute. Clair. Quand on est à un moment où on sort d'une séquence complexe de 6 ou 7 mois où c'était extrêmement aride, extrêmement tendu, et qu'on en sort plutôt par le haut, grand débat, élection européenne, et là, bam, ça recommence. Donc c'est symboliquement, c'est assez simple, il y a faute. Ouais. Maintenant, c'est aussi un peu compliqué, parce que qu'est-ce qu'il faut faire ? Est-ce qu'il a commis une faute pénale ? Pénalement répréhensible ? Je crois pas.
Non.
En même temps, symboliquement, il a commis une faute très importante. Donc qu'est-ce qui va prévaloir ? Est-ce que c'est la faute, entre guillemets, répréhensible ? Je crois pas. C'est le symbole qui va finir par décider de son sort.
Alors Chloé Morin, pour poursuivre ce que dit Emmanuel Bachelry, vous diriez, vous également, qu'il y a une faute politique majeure derrière tout ça ?
La difficulté, c'est que effectivement, il y a beaucoup de choses de nature très différente qui sont mêlées dans ce dossier. Il y a à la fois des choses qui sont finalement anecdotiques, mais à une symbolique forte et qui marquent l'opinion. Et puis des choses qui sont de l'ordre de morale, de la morale, du civisme, en fait. Et des choses qui peuvent être davantage de l'ordre de la justice et de l'efficacité. Et en fait, tout est mélangé. Et j'ai l'impression que, comme pour d'autres affaires avant, je pense à celle qui avait entouré Aquilino Morel, par exemple.
Les chaussures.
On retient les chaussures, par exemple, l'élément symbolique est finalement complètement anecdotique. Et on ne retient pas forcément les éléments qui sont peut-être plus importants et plus fondamentaux. Ici, par exemple, on a évoqué un possible dîner informel avec des lobbyistes.
On va y venir. Hein.
Oui. Par exemple, oui. Je pense que l'opinion va moins s'alarmer, paradoxalement, de ce dîner potentiel et de ce que ça veut dire.
Oui, qu'on s'attache au symbole, finalement. Oui, même s'ils sont un peu plus simples, un peu simplistes, alors qu'il y a même des dossiers assez lourds sur la table en matière de politique générale. 20h10 sur France Info. On reste sur cette thématique, rassurez-vous. Mais pour l'heure, le rappel de l'info avec vous, Solène Cressan.
37 personnes interpellées devant le Panthéon à Paris cet après-midi. Plusieurs centaines de sans-papiers sont entrés dans le bâtiment pour réclamer leur régularisation et un rendez-vous avec le Premier ministre. Ils continuent de manifester autour, tous soutenus par le collectif La Chapelle Debout. Ils se sont appelés les Gilets Noirs. Des députés de la majorité se désolent des affaires autour de François de Rugy. Sur le terrain, les retours sont terribles, disent certains, alors que cette année a déjà été difficile pour le parti présidentiel avec la crise des Gilets jaunes. Des élus LREM qui critiquent aussi le lynchage qui vise le ministre de la Transition écologique. 74 personnes toujours en garde à vue après les dégradations en marge de la célébration de la victoire de l'équipe d'Algérie à la CAN hier soir. En France, une femme de 42 ans est morte à Montpellier, renversée par la voiture d'un supporter. Sa fille de 17 ans est blessée aux jambes et son bébé d'un an polytraumatisé. Son pronostic vital est engagé. Le président du gouvernement catalan sera jugé pour désobéissance. Quim Torra a refusé de retirer les symboles pro-indépendantistes des bâtiments publics avant les élections législatives et locales et espagnoles du printemps dernier. Il pourrait être suspendu de ses fonctions de président de l'exécutif régional pendant 2 ans. Dylan Groenewegen se sentait bien et parle d'un très beau final. Le Néerlandais s'est imposé cet après-midi au sprint à Chalon-sur-Saône sur la 7e étape du Tour de France. L'Italien Giulio Ciccone reste en jaune et Peter Sagan en vert pour le meilleur sprinter.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
François de Rugy, c'était sur BFM TV ce matin, a tenté de se défendre sur le registre de l'émotion.
Quand on est attaqué, matin, midi et soir, que tous les jours sortent des nouvelles choses qui sont fausses, eh bien, évidemment, on peut avoir envie de rester chez soi. On peut avoir envie de lâcher prise. Mais je ne le ferai pas, car je suis très en colère. Quand je lis un article qui prétend que j'occupe un logement social, jamais de toute ma vie je n'ai demandé un logement social. J'ai loué un logement suite à une séparation. Je n'ai jamais profité indûment d'un logement social.
De la colère et presque des larmes, vous le pensez sincère, Emmanuel Bachelry, quand vous voyez cet extrait ?
Je pense qu'il est assez sincère, il est touché, mais c'est vrai qu'il s'en prend quand même plein la tête depuis 72 heures, donc il faut dormir, il faut se lever, il faut aller se défendre, il faut utiliser la rue. Mais En même temps, quand on est numéro 2 du gouvernement, c'est compliqué d'arriver sur un plateau et d'être en larmes. S'il y a un truc qui va pas.
Je veux dire, pour un ministre d'État.
Bah oui, ouais. Il est ministre d'État, il est numéro 2 du gouvernement. On se défend pas avec les larmes aux yeux. C'est même pas un jugement de valeur. C'est du bon sens.
Mais en termes de communication de crise, hein, est-ce qu'il faut aller détail par détail, égrainer chaque pièce qui est mise sur la table, l'appartement, les homards, etc., etc. Ou est-ce qu'il faut essayer d'avoir une sorte de défense un peu plus globale?
En tout cas, il faut pas subir et il faut devancer et il subit depuis 3 jours. Donc c'est là où je pense, en termes de communication en tout cas, ça va être compliqué pour lui parce qu'effectivement il renvoie la balle à chaque fois. C'est comme au tennis. Il y a Nadal Federer en ce moment, mais c'est comme quand on est au tennis, on est en fond de court et qu'on se fait matraquer de coups, on peut renvoyer toujours. Il y a un moment où ça craque et je pense que ce matin il a craqué.
Soazic Kemener, vous avez de l'expérience hein, dans les services politiques. Hein, vous en avez vu des affaires. Ça vous paraît assez inédit ou au fond on a déjà vécu ce type de situation où des personnalités résistent pendant des jours et des semaines et puis ça craque.
Oui, c'est assez courant. Alors évidemment, on a tous en mémoire les larmes de Dominique Baudis, mais c'était une toute autre affaire, rien à voir.
Et puis
il avait été innocenté, mais bien longtemps après. Mais ce qui est sûr, c'est que François de Rugy, à la fois, il a sans doute pas tort d'ailleurs sur cette affaire d'appartement, parce qu'on voit, hein, il y a différentes enquêtes qui ont été faites aujourd'hui et qui montrent qu'il n'était peut-être pas du tout au courant de la façon dont ce logement avait été mis en location. Donc on voit qu'il est très touché. Après, est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Le problème, c'est que quand on veut tirer les larmes et que d'un autre côté, on a eu cette réaction immédiate dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire réaction très dure, le limogeage immédiat d'une préfète qui sert l'État depuis des années et des années sans état d'âme. Là, ça correspond pas, ça colle pas dans la lecture qui peut être faite de la séquence. Donc, on peut pas à la fois dire je suis un grand sensible et puis en même temps avoir aucun état d'âme et limoger sa directrice de cabinet en quelques heures.
Oui, c'est pas très chic, ça, pour vous, hein?
Non, je trouve pas ça très chic.
Virginie Le Petit, les larmes de François de Rugy, je vous sens un peu sceptique, quand même, vous, hein?
Je suis pas sceptique sur les larmes, je suis sceptique sur le comportement qui a été mis à jour ou pas. Non, mais, enfin, en tout cas, par Mediapart. Quand on devient ministre de la République, sous un gouvernement et avec un parti qui prétend changer complètement la donne,
exactement,
changer les pratiques,
exactement,
on se doute que le comportement va être scruté au millimètre. Il n'y a qu'en France que ce genre de choses est possible. Dans des pays du nord de l'Europe, rappelez-vous Mona Sahlin, cette députée suédoise, elle avait démissionné après avoir payé avec sa carte professionnelle, enfin la carte politique, 2 barres chocolatées.
On en est loin, hein.
On en est très loin. Il n'y a qu'en France, je pense, qu'on peut voir ça dans toute l'Europe.
Vous pensez vraiment qu'il n'y a que ces pratiques-là, qu'elles ne se rendent compte qu'ici, en France, ou après tout?
Je pense qu'il faut être soit un grand naïf, soit un grand cynique pour imaginer qu'on peut vivre sur ce train de vie-là et qu'à un moment, ça ne sera pas reproché. Et dans les deux cas, il y a un problème. Et le correspondant du Spiegel, vient de rédiger un article où il dit que ce que ça met en relief, c'est la mauvaise capacité de Macron à juger les gens et à nommer des gens qui sont fiables et solides à des postes importants. C'est ça le gros problème.
Chloé Morin, sur cet aspect des choses, sur ces nominations du président Emmanuel Macron?
Moi, je trouve que paradoxalement, quand on regarde les 10 dernières années, il y a énormément de progrès qui ont été faits en matière de transparence, de contrôle de l'utilisation des fonds publics. Il y a des choses qui ont été faites sous François Hollande, des choses qui ont été faites sous Emmanuel Macron. Et ce qui est paradoxal, c'est que j'ai l'impression que finalement, à mesure qu'on progresse, on découvre plus de choses, forcément. Les médias peuvent peut-être plus facilement faire leur travail et mettre à jour des pratiques qui ne devraient pas avoir lieu. Et donc, du coup, c'est la démocratie fonctionne mieux en quelque sorte. Elle est plus transparente, mais elle s'affaiblit elle-même.
Alors
parce
elle
que finalement, chaque fois qu'on met à jour ce genre de pratique, ça nourrit la défiance. Et on est dans un pays où finalement, 7 Français sur 10 pensent déjà que la plupart des hommes politiques sont corrompus.
Vous faites bien de rappeler ça, Chloé Morin, parce que effectivement, il y a de la transparence d'un côté, et puis peut-être une vie démocratique qui s'abîme de l'autre. Écoutez ce coup de gueule du secrétaire d'État à l'éducation, Gabriel Attal, sur France Inter ce matin.
C'est sûr, quand on est par ailleurs un jeune engagé en politique pour qui c'est les premières responsabilités politiques électives, ça fout un peu les boules quand même de se dire que ça renvoie à cette image et que ça va alimenter l'idée que finalement, bah, tous les politiques, ils se gavent aux frais du contribuable, voilà. Et alors que c'est pas le cas.
Là, c'est compliqué de penser le contraire quand
bien
même.
Bien sûr, Léo mais ça n'est pas le cas.
Ça fout les boules, dixit Gabriel Attal, Emmanuel Bachelry. C'est un langage qui est inhabituel, hein.
Bah, on le sentait un peu agacé ce matin quand même. Il parle de personnel politique à Paris. Il faut se mettre dans la peau du parlementaire qui le jeudi soir repart en circonscription. C'est à lui qu'il faut penser aussi. C'est-à-dire que quand il va en circonscription, quand il va faire sa permanence demain, samedi et dimanche, qu'il va faire le marché dimanche matin, il va entendre 9 fois sur 10. C'est ça la politique autrement. C'est pour ça que vous aviez raison tout à l'heure en disant ça. C'est quand je parlais de ridicule et essentiel, ça a un côté un peu ridicule. C'est Omar, 2 bouteilles de champagne. Je dis ça a un côté ridicule. Mais ça a un côté absolument essentiel, de surcroît, quand on promeut le fait de faire de la politique autrement. C'est-à-dire que quand, en plus, manque de bol, ils se sont fait un peu toper à l'Assemblée par Ruffin il y a une dizaine de jours, quand ils prenaient chacun leur voiture, que les voitures tournaient sur le parking de à l'arrière de l'Assemblée, en attendant chaque ministre qui repartait. Et il se trouve que, manque de bol, François Drugy, son ministère, il est à 600 mètres de l'Assemblée. Et donc, c'est cette somme de petits détails, et c'est pour ça, je suis d'accord avec vous, Clé, quand vous disiez tout à l'heure qu'il fallait une exemplarité absolue, peut-être trop d'ailleurs, mais c'est l'époque, et qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit à la moindre erreur, et qu'il faut faire attention à tout, et que c'est pour ça qu'ils ont des conseillers, en principe.
Oui, Sosie Kemener, pourquoi, du coup, alors si c'est l'époque, certes, les nouvelles, on va dire, pratiques dans la vie politique, pourquoi est-ce que Matignon a tenu à le recevoir, et pourquoi le gouvernement, l'exécutif, tient à ce point? Pourquoi est-ce qu'ils tiennent la digue?
Ben, pour beaucoup de raisons. D'abord parce que François Drugy, il est numéro 2 du gouvernement, il n'est pas arrivé là à n'importe quel moment, il est arrivé là dans une situation de crise pour remplacer Nicolas Hulot à l'automne dernier. Donc c'est compliqué de changer encore de ministre de l'Environnement. On sait en plus que les remaniements sous Emmanuel Macron, ben, c'est très compliqué. Les accouchements de nouveaux ministres, on se souvient aussi du ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, qui avait quitté le gouvernement, ça avait pris 15 jours pour le remplacer. Donc c'est une crise politique. Donc ils considèrent qu'il vaut mieux, pour l'instant, hein, les deux têtes de l'exécutif considèrent pour l'instant qu'il vaut mieux attendre.
Temporiser.
Ouais. Mais encore une fois, on est dans une réponse qui est vraiment à court terme. Ça, c'était avant, par exemple, l'interview dont vous parliez tout à l'heure.
Allez, on va parler de la République des lobbies dans un instant, pour l'heure, 20h, 20 minutes. Rappel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Je voulais que l'appel à la haine soit reconnu et je me réjouis de ce fait. Alain Finkielkraut réagit sur France Info ce soir après la condamnation de l'homme qu'il avait insulté en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Il est condamné à 2 mois de prison avec sursis. L'académicien ajoute qu'il n'aurait pas aimé qu'il soit condamné à de la prison ferme. Agnès Buzyn chahutée pendant une visite à l'hôpital Saint-Louis à La Rochelle. Des manifestants ont poursuivi la ministre de la Santé dans les couloirs des urgences au cri de « hôpital en colère ». Agnès Buzyn a assuré qu'un budget de rénovation ou d'agrandissement est prévu pour ce service d'urgence où beaucoup de personnes sont en grève. Alexandre Benalla de nouveau dans le viseur d'Anticor. L'association anticorruption dépose une nouvelle plainte contre l'ancien chargé de mission de l'Élysée pour corruption, corruption passive, blanchiment et entrave à la justice. L'association demande de faire la lumière sur la conclusion de contrats de sécurité avec des oligarques russes et le rôle joué par Alexandre Benalla. Moins bruyant qu'un banc de crevettes, le Suffren, tout nouveau sous-marin nucléaire d'attaque inauguré cet après-midi à Cherbourg par Emmanuel Macron. C'est le premier d'une série de 6 des engins plus discrets et plus lourdement armés. Premier sous-marin français lancé depuis plus de 10 ans. Sa bataille dure en ce moment sur le gazon de Wimbledon. Les deux légendes du tennis s'affrontent en demi-finale. Raphaël Nadal opposé à Roger Federer. Le Suisse mène 2-7-1. L'un des deux rejoindra Novak Djokovic en finale.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Embarrassante cette révélation dans Ouest France, toujours à propos des dîners, hein, selon laquelle François de Rugy a invité en mars des lobbyistes du monde de l'énergie et demandé que ce rendez-vous ne figure pas dans l'agenda public du ministre. Voici la réaction, enfin les propos de l'eurodéputé secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts, David Corman, invité tout à l'heure du 19-20 politique de France Info.
Ça ne surprend pas dans la mesure où la conception de l'écologie de ce gouvernement, du chef de l'État, du Premier ministre, qui était, je le rappelle, responsable des relations institutionnelles pour Areva, c'est l'expression polie pour dire lobbyiste, ont une relation à l'écologie de dire tout ça est compatible avec l'intérêt privé des lobbies et des grandes multinationales. Ce que nous, les écologistes d'Europe Écologie Les Verts, ne considérons pas. Et donc, il y a une forme de cohérence à ce qu'ils fassent ça. Je le condamne, je trouve ça déplorable, mais il y a une forme de cohérence à s'y prendre comme ça. Vous savez, la République En Marche, ça ressemble de plus en plus à la République des marchands. Leur vision de la France, leur vision de leur rôle politique, c'est d'accompagner un modèle économique qui pourtant non seulement détruit les liens sociaux et les droits sociaux, mais aussi qui détruit l'environnement.
Alors, pour essayer de comprendre ce qui se passe, Soazic Kemener, est-ce que c'est répréhensible? Est-ce que c'est grave de recevoir des lobbyistes?
Encore une fois, c'est pas grave, ni répréhensible, ni illégal. Enfin, si, c'est répréhensible, ce n'est ni répréhensible, ni illégal, mais ça peut être grave parce que on est effectivement à un moment précis, il arrive après la crise, Nicolas Hulot s'en va, justement, en pointant le rôle des lobbies et ministères, et encore une fois,
C'est vrai, il avait dénoncé la présence des lobbies dans les cercles du pouvoir.
Dans le cercle de pouvoir. Ouais. Et encore une fois, c'est un manque total de discernement de la part de ce ministre numéro 2 du gouvernement qui était alerté sur les questions de transparence. On le sait, depuis longtemps, il travaillait sur ces questions, François de Rugy, qui était alerté sur la question des lobbies. Il suffisait d'écouter l'interview de Nicolas Hulot, pour ceux qui s'en doutaient, son interview de démission sur France Inter, pour comprendre à quel point ça avait été prégnant quand il était lui-même hôtel de Reclos. Et donc, réussir à organiser ce genre de rendez-vous en mettant en garde, en prévenant les membres du cabinet, en disant vous ne serez pas invités, il y aura juste mon conseiller chargé de l'énergie. Donc, c'est aussi alerter sur le fait qu'il reçoit de façon informelle, encore une fois des dîners informels, un lobbyiste, boulevard Saint-Germain.
Alors, Chloé Morin, Ipsos a mené une étude internationale, 42 pays,
sur la démocratie.
Sur les lobbies, et puis pour la Fondapol, c'est pour le compte de la Fondapol.
Une étude sur la démocratie.
Que dit-elle? Cette étude.
On demandait en fait aux gens, à leur avis, qui détient le plus de pouvoir dans le pays. Et c'est vrai que la France, parmi de nombreux pays d'ailleurs, est parmi les pays qui placent avant tout les marchés financiers, les riches, les grandes entreprises, bien avant les élus, les citoyens.
Le vrai pouvoir,
citoyens,
ce sont les marchés financiers.
Donc il y a ce sentiment que le vrai pouvoir est entre les mains des grandes entreprises et des financiers. Alors c'est vrai que la France n'est pas particulière de ce point de vue-là. Beaucoup d'autres pays ont ce sentiment-là. Mais c'est vrai que, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, est-ce qu'on aurait autant parlé de cette affaire s'il n'y avait eu que le dîner sans Léo Mar. C'est-à-dire que là, sans Léo Mar, le dîner devient un peu, voilà, c'est,
alors que c'est une révélation sur un dîner de lobbyistes au ministère passe inaperçu.
Ça peut passer inaperçu. Delphine Bateau, par exemple, avait fait campagne contre les lobbies avant même Nicolas Hulot. Ça fait longtemps qu'elle alerte sur certaines pratiques. Ça n'a jamais vraiment soulevé d'indignation massive. Donc, il y a à la fois le sentiment que il y a un problème de confiscation du pouvoir par un certain nombre d'intérêts économiques, mais une forme de résignation de l'opinion au jour le jour.
Virginie Lepetit, les pratiques dans les autres pays, vous avez traité cela à Courrier International régulièrement, les lobbies, ça se passe ailleurs de façon plus sereine?
Alors ça se passe notamment à l'Union européenne, à Bruxelles, où on a environ 25 000 personnes qui représentent 11 000 organisations qui sont recensées au registre de la transparence. Donc ça, c'est des gens qui se déclarent lobbyistes et qui œuvrent au sein donc de Bruxelles, auprès des représentants de l'Union européenne, pour défendre les intérêts de leurs associations. Ça, c'est ceux qui sont déclarés. Donc oui, c'est quelque chose d'énorme. Tout le monde a intérêt, alors y compris les défenseurs de l'environnement. Tout le monde a intérêt à essayer d'influencer les décideurs. Ce qui pose problème ici, à mon avis profondément, c'est pas qu'il rencontre des représentants du monde de l'énergie, puisque ça fait partie des secteurs qu'il doit suivre. C'est que tout ça se passe de façon informelle, qu'il demande expressément à ce que ça ne soit pas dans son agenda. Donc la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il a pu se dire pendant ce dîner?
C'est ça
le problème, parce que...
Qu'est-ce qu'il a caché?
Mais bien sûr, qu'il rencontre des membres de l'industrie de l'énergie, je trouve pas ça fou, moi, du tout.
Emmanuel Bachelry, un gouvernement de marchands a dit en substance, David Cormand, je vous ai vu réagir.
Oui, parce que on a le sentiment qu'on découvre les lobbies, mais enfin, depuis que Rome est Rome et un millier d'années de monarchie en France, les gens s'influencent.
C'est
nouveau.
De l'influence.
Mais oui, ça n'a rien de nouveau. Et d'ailleurs, on pourrait même se poser la question. En général, l'influence qui est efficace, voire efficiente, c'est celle qui ne se voit pas et qui ne s'entend pas. En l'occurrence, maintenant, on parle des lobbyistes à longueur de journée. Donc, ils font moins bien leur boulot parce qu'en principe, influencer tel ou tel, en principe, ça devrait moins se voir ou pas se voir. Donc, c'est vrai, il a commis une erreur. Enfin, d'ailleurs, c'est même pas une erreur, c'est de la candeur de biffer d'un agenda un dîner parce qu'il n'y a pas meilleur moyen pour se faire taper dessus. Hein. Il a pris l'autoroute là.
Allez, on va marquer une pause Soizic rapidement, vite.
Oui, et puis tout le problème, c'est que les députés de La République En Marche, depuis le début du quinquennat, disent qu'il faut donner le nom des représentants des lobbies qu'ils rencontrent. Donc c'est vrai que cacher les lobbies qu'on rencontre, c'est pas.
Allez, cacher ce lobby que je ne saurais voir. 20h28 sur France Info. On reste sur le sujet de la moralisation de la vie publique. Dans un instant, on se retrouve après la météo et après les infos dans une poignée de minutes pour la suite des Informés de France Info.
Quand il fait chaud, on aime se calfeutrer à l'intérieur, volets fermés. Mais l'air intérieur peut être pollué jusqu'à 5 fois plus qu'à l'extérieur. Alors procurez-vous un ventilateur purificateur Dyson PureCool. Il vous rafraîchira avec de l'air purifié en éliminant plus de 99% des particules aussi fines que les virus pour que vous ne les respiriez pas chez vous. Dyson PureCool. Ventile un air purifié, pas un air pollué. Pour en savoir plus, visitez Dyson.fr. Testé par l'Institut Pasteur de Lille sur le virus H1N1 en septembre 2018.
France Info Météo, avec le CIC, banque numéro 1 au podium de la relation client 2019. CIC, construisons dans un monde qui bouge.
La météo, les prévisions avec vous, Élodie Calac pour Météo France.
Un week-end agréable, plus mitigé vers le nord-est. Demain, les nuages seront plus nombreux entre le nord de la Seine, le Grand Est, la Franche-Comté, parfois avec une averse. Entre la Manche, la région parisienne, le centre, des nuages, du soleil qui s'imposera davantage l'après-midi. Entre l'océan, le sud-ouest, Rhône-Alpes et la Méditerranée, là, beaucoup de soleil. Juste quelques nuages vers le Pays Basque et les Landes le matin. Et peut-être une averse sur l'est des Pyrénées et le Mercantour l'après-midi. Notez que le Mistral se renforcera jusqu'à 80 km à l'heure. Il fera 12 à 16 degrés au nord le matin, 21 à 29 l'après-midi. Et puis au sud, on partira de 16 à 23 degrés le matin pour atteindre 28 à 35 l'après-midi. Dimanche, beaucoup de soleil à l'ouest, plus de nuages au nord de la Seine et dans l'est avec un risque d'averses orageuses en montagne. Il fera un peu moins chaud, une moyenne de 25 degrés au nord et de 30 au sud.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Heures et 30 minutes sur France Info, toute l'info avec vous. Bonsoir Thomas Bénèche.
Bonsoir Jean-François, bonsoir à tous. L'ancienne directrice de cabinet de François de Rugy règle ses comptes. Dans un entretien au journal Ouest France, la préfète Nicole Klein accuse le ministre de la Transition écologique d'avoir voulu sauver sa tête en offrant la sienne. Lui qui est empêtré dans des affaires liées à son train de vie. Et Nicole Klein a été limogée hier à la suite de révélations de Mediapart sur sa location d'un HLM à Paris qu'elle a conservé pendant 12 ans alors qu'elle ne vivait plus dans la capitale. Ce soir chez nos confrères de France Inter, Nicole Klein dénonce l'inélégance et la brutalité dont elle fait l'objet depuis ces dernières heures.
C'était un moment d'une grande violence. Bon, la première violence, évidemment, ça a été l'article de Mediapart, hein, le moment où le journaliste s'est pointé devant ma porte à 9h du soir. Ça, c'était évidemment très violent et la manière dont le ministre d'État a réagi était aussi extrêmement violente parce que je ne m'attendais pas finalement à un licenciement brut puisque je n'ai eu pas de temps pour m'expliquer, alors qu'évidemment, quand on explique les choses, elles sont beaucoup plus acceptables. Il y a eu un décret mettant fin à mes fonctions ce matin. Je ne suis plus directrice de cabinet. C'est ainsi, hein, c'est la vie aussi des hauts fonctionnaires, justement. Mais c'était la manière dont ça a été fait a été très brutale et très inélégante.
Nicole Klein, ancienne directrice de cabinet de François de Rugy, elle répondait aux questions de Béatrice Duguay. Des incidents ce soir dans le quartier du Panthéon à Paris. Les forces de l'ordre ont fait usage de gaz lacrymogène. Cela à l'issue de l'évacuation de plusieurs centaines de sans-papiers qui ont occupé illégalement cet après-midi ce monument du Panthéon. 37 personnes ont été interpellées. Cette action des sans-papiers visait à demander leur régularisation et un entretien avec le Premier ministre. 2 mois de prison avec sursis pour l'homme qui avait proféré des insultes à caractère antisémite à l'encontre du philosophe philosophe Alain Finkielkraut. Le parquet de Paris avait requis 6 mois d'emprisonnement. Les faits s'étaient déroulés le 16 février dernier en marge d'une manifestation gilet jaune dans la capitale. Nadal, Federer, un classique du tennis, c'est en ce moment en demi-finale de Wimbledon à Londres. Le match n'est pas encore tout à fait terminé, Jean-Pierre Blimaud.
Non, Roger Federer mène 2-7-1 pour l'instant, Nadal au service, mais il est mené 5-3 sur son service. Il est en train d'essayer de recoller au score puisqu'il a une balle pour revenir à 5-4. C'est fait, il rejoint sa chaise en courant, mais il a eu très très chaud l'Espagnol puisqu'il vient de sauver 2 balles de match sur ce central qui retenait son souffle tout à l'heure. Et on assiste toujours à des échanges splendides et on assiste aussi à une guerre des nerfs entre 2 monstres du tennis qui parfois peuvent sortir des coups absolument fantastiques.
Jean-Pierre Blimaud en direct de Wimbledon à Londres pour ce tournoi de tennis. À noter que Novak Djokovic est lui qualifié pour la 6e fois dans cette finale, pour une finale pardon, dans ce tournoi de Wimbledon. Il s'est qualifié dans l'après-midi. 20h33 sur France Info, l'heure de retrouver Jean-François Equili et tous ses informés.
France Info, les informés, Jean-François Aquili.
Avec Virginie Lepetit, chef d'édition à Courrier International, Soazic Kemener, rédactrice en chef politique à Marianne, avec Chloé Morin, politologue, directrice de projets internationaux chez Ipsos, et Emmanuel Bachellery, communicant, directeur général de la Brest Ultime Sailing, la Bretagne est en force ce soir, expert associé à la Fondation Jean Jaurès et qui tremble en ce moment même pour le sort de Raphaël Nadal.
Je tremble pas, mais c'est
allez, ça. Nous allons parler de moralisation de la vie public. Comment défendre l'indéfendable? François de Rugy, toujours lui ce matin sur BFM TV, a jeté au compost le homard, les crustacés, les fruits de mer, les huîtres, le champagne, le caviar.
Ça vous surprend qu'à l'Assemblée nationale, on puisse être amené à servir du homard? Moi, je n'aime pas ça. Je n'en mange pas. J'ai une intolérance aux crustacés, aux fruits de mer. D'ailleurs, depuis, il y a un agent de l'Assemblée nationale qui très gentiment m'a envoyé, dit mais on avait une liste de tout, de tous vos intolérances alimentaires. La première ligne, c'était les crustacés, les fruits de mer, et votre femme également. Mais on fait croire que c'est moi qui demande qu'on serve des homards. Enfin,
sur les
je
travaux.
N'aime pas les huîtres, je ne prends pas de champagne. Alors vous voyez, je déteste le caviar. Alors vous voyez les histoires qu'on raconte à partir d'une photo. Le champagne, alors, ça me donne mal à la tête, donc je n'en prends pas.
À la Soazic Kemener, je vous vois sourire sur le plateau, hein, c'est une séquence bon, un peu étrange. Je sais qu'on aime bien les fruits de mer en Bretagne, hein, Soazic. Que diriez-vous de cette séquence, au fond on a quelque chose d'un petit peu de l'ordre du vaudeville sous nos yeux, hein.
Exactement.
Et dans nos oreilles.
Et c'est ce que disait très bien Chloé Morin tout à l'heure, c'est-à-dire que de toute façon, la force du symbole est tellement importante que quoi qu'il dise, il n'arrivera pas à s'en dépatauger. Donc il essaie tout. Donc il essaie de nous amener sur un terrain personnel. Hein. On a une question politique qui se pose. Est-ce qu'il a fait commis des erreurs de discernement? Et puis il nous amène sur son terrain à lui, son terrain privé.
Qui n'est pas le bon terrain finalement. Parce que le débat, c'est la moralisation de la vie publique.
Et ça ne fonctionne pas. On n'a pas envie d'entrer dans son histoire à lui, personnelle. On a juste envie de savoir si en tant que politique, il prend les bonnes décisions ou pas. Et donc le mélange entre le privé et le public qu'on lui accuse déjà d'avoir joué pendant qu'il était président de l'Assemblée nationale, il le rejoue finalement devant nous et c'est pas très utile. Très efficient, je pense.
Chloé Morin, il y a eu 2 lois au départ du quinquennat qui ont été votées, une organique, une ordinaire. C'était des lois qui étaient censées réguler un peu tout ça, les frais de mandat parlementaires, mieux encadrer les réserves ministérielles et parlementaires, supprimer les emplois de collaborateurs de la famille proche, interdit. On avait l'impression qu'après cette loi de moralisation-là, eh bien les choses allaient s'arranger.
Et d'ailleurs, à chaque fois qu'on a fait des lois qui ont fait progresser la bonne utilisation des fonds publics, la transparence, etc., on se rend compte que ça n'a jamais eu aucun impact positif sur l'opinion. C'est-à-dire, on est toujours à cette française sur 10 qui porte des politiques corrompues.
C'est trop technique, ces lois sont trop techniques, difficilement accessibles pour le commun des
mortels. C'est pas seulement que c'est trop technique, c'est que, en fait, l'exception confirme la règle. Et donc, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui passe entre les mailles du filet, etc., et on se dit, c'est bien la preuve que il y a des comportements généralisés derrière le rideau qui nous sont cachés. Et la question que ça pose, elle est extrêmement elle est extrêmement importante. C'est la question de dans une affaire comme ça, on ne peut pas être blanchi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ça n'est pas une question de justice, puisque vraisemblablement il n'y a rien d'illégal en tout cas qui n'a été démontré, c'est une question plus morale et de vertu civique, le tribunal est celui de l'opinion et s'applique la règle du « il n'y a pas de fumée sans feu ». Et donc, quel que soit finalement...
Ça vous colle à la peau.
Ça vous colle à la peau et puis ça nuit à tout le monde. C'est-à-dire que ça nuit à l'intéressé, mais ça nuit à l'ensemble des élus et des institutions. Et ça va avoir un impact sur la confiance qu'on a dans les institutions et donc l'image de la démocratie.
L'image de la démocratie. Je vais vous faire écouter donc Emmanuel Bachelry et Virginie Le Petit, cet extrait très intéressant ce matin de l'interview de François Ruffin. C'était sur France Info, le député de la France Insoumise de la Somme, qui s'est exprimé sur cette affaire. Pour lui, le problème, ce n'est pas tant, ce sont pas tant ses repas, mais écoutez ce qu'il dit plutôt, c'est plus simple.
Je voudrais surtout vous dire que moi, je prends cette pantalonnade avec gravité. On entendait là, dans le journal juste avant, que la température de Paris deviendrait bientôt la température de l'Australie. Moi, je reviens du Doubs, les rivières, il n'y a plus de poissons à l'intérieur, d'abord parce que les eaux des rivières se sont réchauffées de 2 degrés, enfin presque plus. Les gens qui avaient l'habitude de pêcher la truite ou les ombres à l'intérieur, il n'y en a plus. Moi, si je suis hostile à François de Rugy, c'est sur l'écologie, centralement. Je vous fais part de mon angoisse. Et mon angoisse, j'ai 2 gamins. Je me trouvais à Montpellier, j'ai rencontré Kim et Esther qui sont en première et qui vivent avec cette angoisse-là, organisateurs des manifs pour la jeunesse, pour le climat, et qui vivent avec cette angoisse dans quel monde on va vivre demain.
Emmanuel Bachelry, il est très audible, François Ruffin, sur cet argument-là. Au fond, le vrai dossier, le vrai débat, c'est le dérèglement climatique.
Mais pourquoi il est audible ? Il est audible parce qu'il a toujours un coup d'avance, Ruffin. Là, on vient le questionner sur le comportement de François de Rugy au ministère. Il se décale tout de suite et il prend le problème de fond. Et c'est pour ça qu'il est toujours audible. Il a toujours un coup d'avance. Et en l'occurrence, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, en communication de crise, si vous avez ne serait-ce qu'un coup de retard, vous êtes mort. Et là, pour revenir à la séquence de Rugy avec Bourdin ce matin, aller parler de ses indigestions ou de son incapacité à absorber du champagne parce que ça lui donne une migraine, c'est terminé. Le match, il est plié.
Vous dites qu'il est plié. Virginie Le Petit, vous êtes d'accord avec l'argument d'Emmanuel Bachelry ? C'est un peu fini tout ça.
Oui. Oui, de toute façon, c'est fini à partir du moment où c'est sorti. C'est parce que on en a beaucoup parlé. Il y a la symbolique et effectivement, si François de Rugy faisait la démonstration de sa capacité à tenir sa place à ce niveau-là du gouvernement par ses actes et sur les dossiers. Et en disant bon effectivement il y a eu ça et puis en présentant des excuses et qu'il revenait sur les dossiers, sans doute que ça se passerait pas de cette façon-là.
Allez, 20h40 sur France Info. Nous marquons une pause et c'est le rappel de l'info avec vous Solène Cresson.
L'ancienne directrice de cabinet de François de Rugy parle d'un moment d'une grande violence. Le ministre de la Transition écologique a renvoyé Nicole Klein hier. Sur France Info ce soir, elle assure que la manière dont cela a été fait a été très brutale, très inélégante. Selon Mediapart, elle aurait conservé un logement social à Paris pendant 12 ans sans y habiter. Le ministre est aussi largement éclaboussé par les révélations de Mediapart. 37 personnes interpellées devant le Panthéon à Paris. Cet après-midi, plusieurs centaines de sans-papiers sont entrés dans le bâtiment pour réclamer leur régularisation et un rendez-vous avec le Premier ministre. Ils ont ensuite manifesté autour du bâtiment après leur évacuation. Tous soutenus par le collectif La Chapelle Debout, ils se sont appelés les Gilets Noirs. Le bébé décédé après avoir été oublié dans une voiture dans le Loiret n'a pas subi de maltraitance. Son corps était autopsié. Aujourd'hui, ses parents l'avaient oublié pendant près de 2 heures. Il y aura des examens complémentaires pour déceler d'éventuels problèmes cardiaques qui auraient aggravé son état de santé sous la chaleur. L'enquête reste ouverte pour homicide involontaire. Du rouge en Ile-de-France et le reste de la France en orange. Vous êtes nombreux sur les routes des vacances encore ce soir. Bison Futé classe la journée de demain orange sur tout le pays. Et puis, petite baisse de réussite au brevet cette année, moins 0,6 points par rapport à 2018. Le taux de réussite est de 86,5%, rapporte le ministère de l'Éducation.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
De l'affaire François de Rugy, Emmanuel Macron n'a évidemment pas dit un mot lors du lancement officiel à Cherbourg du Suffren, premier d'une série de 6 SNA, les 6 nouveaux sous-marins nucléaires d'attaque français. Nous sommes à l'avant-veille du défilé du 14 juillet, le chef de l'État qui a évoqué évidemment la puissance de la France.
Ce ne sont pas seulement des sous-marins que vous construisez ici. Ce que vous construisez, c'est bien l'indépendance de la France. Ce que vous construisez, c'est notre souveraineté. Ce que vous façonnez par vos gestes patients, minutieux, c'est notre liberté d'action. C'est notre statut même de grande puissance dans le monde.
Soazic Kemener, alors les marins disent le Suffren, hein. Il y a 2 façons de le prononcer, plus communément le Suffren pour les civils que nous sommes. Le chef de l'État essaie de redonner de la hauteur à la fonction de président à ce moment-là précis.
Oui, alors c'est vrai, depuis déjà quelques mois, hein, ça a été terrorisé autour de lui, c'est-à-dire qu'il faut absolument qu'il reprenne de l'altitude. Après, on se souvient des litanies de petites phrases en tout genre qui ont en partie, parce qu'il n'y avait pas seulement ça, nourri la crise des gilets jaunes. Donc l'idée pour le président de la République, c'est vraiment d'être en arrière-plan, mais surplombant, avec Édouard Philippe à la manœuvre. Alors, il avait une très belle embellie politique, Emmanuel Macron. Il n'a pas gagné les européennes, mais ça allait mieux, comme disait François Hollande, vous vous souvenez, sous le précédent quinquennat. Oui, ça va mieux. Oui. Il disait ça va mieux, mais ça allait mieux pour lui. Et puis arrive ce qui arrive toujours en Macronie, c'est-à-dire l'été meurtrier. Alors, c'était vrai la première année en 2017, vous vous souvenez de la crise des APL, et puis vous vous souvenez aussi des histoires, affaires autour de Richard Ferrand et puis du garde des Sceaux François Bayrou. L'année dernière, c'était l'affaire Benalla. Et cette année, on aurait dû beaucoup plus parler de ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est-à-dire le lancement de ce SNA, de cette nouvelle lignée de SNA. Et puis voilà François de Rugy.
Oui, voilà François de Rugy qui est là, qui occupe l'espace médiatique. Emmanuel Bachelry, il y a ces très belles images qu'on a vues aujourd'hui de ce sous-marin avec cette cocarde sur son museau. Logiquement, c'est vrai que Soazic Kemener a raison, cela aurait dû imprimer la une de tous nos journaux ce soir en fait. Parce que cela rappelle aussi la puissance de la France. Allez.
C'est-à-dire qu'il n'est pas aidé, hein. C'est sûr qu'il n'est pas aidé. Mais le discours, il a fait un discours assez court. D'ailleurs, c'est assez inhabituel pour lui parce que les discours sont assez longs du chef de l'État. Là, il a fait un discours assez court, ça a duré 20 minutes, je crois 21 minutes. C'était un discours qui était très jupitérien, pour reprendre le terme usuel maintenant, très à la fois sur le passé et l'avenir du pays. Il a parlé des temps longs, donc il a bien insisté sur les temps longs, et il a fait une promotion unilatérale du savoir-faire français, en l'occurrence pour faire ce type de sous-marin, en parlant de Naval Group et de l'entièreté des métiers nécessaires pour faire un sous-marin qui est un. Enfin, je veux dire, c'est un prodige technologique, un sous-marin.
Oui, c'est un bijou technologique.
Ah oui, c'est quelque chose de. Et il rappelait quelque chose d'assez étonnant, c'est que pour illustrer son temps long, il disait en fait ce nouveau sous-marin, les premières esquisses ont été faites sous François Mitterrand. Donc c'est 10 ans d'études, ensuite 12 ans de travaux, et la durée de vie c'est 40 ans. Donc en gros, entre le début de la réflexion sur ce sous-marin et la fin de vie de ce sous-marin, il va se passer 70 ans.
Oui, c'est assez remarquable que vous souligniez ce temps long. Chloé Morin, la puissance de la France, la France puissance nucléaire, il faut le rappeler, et c'est vrai que ça nous extrait finalement de cette politiquelle du quotidien.
Quand on vit dans un pays où la plupart des gens pensent que on est en déclin et collectivement on est en dépression, c'est vrai que il y a assez peu de symboles comme ça qu'on peut exalter, de symboles de puissance
et de positif, si je puis dire,
c'est un symbole positif, et je pense que c'est, il joue là sur une corde sensible, parce que je sais pas si vous avez vu le film Le Chant du Loup, qui était sorti en début d'année,
auquel il a fait référence
avec,
dans son discours,
avec Mathieu Kassovitz et Omar Sy, qui a fait pas mal d'entrées. Il me semble qu'ils ont fait plus d'1 million dans les 3 premières semaines. c'est à mon avis, c'est un signe que finalement, il y a une fierté autour de la prouesse technologique, de l'armée, du sens du sacrifice des soldats. Et donc, c'est finalement une manière de réunir la nation autour de symboles positifs. Et on aura ça encore dimanche, d'ailleurs.
Oui. Le 14 juillet, Virginie Lepetit et ce président-là a tout à fait intérêt à se maintenir très, très, très loin des crustacés.
Hein. Il a intérêt à se maintenir loin des crustacés. Et au-delà de la fierté nationale, il a tout intérêt à souligner et à vanter cette réussite technologique parce que c'est un marché international, le marché des sous-marins, et que depuis 3 ans, c'est quelque chose qui a été relancé. Les Américains en fabriquent 2 par an parce qu'il manquait de flotte. On en vend, on va vendre des Barracuda, donc c'est-à-dire la même classe mais qui ne sera pas nucléaire, à l'Australie. C'est des contrats qui ont déjà été passés. On vend l'autre classe, Scorpène, au Brésil. Donc c'est quelque chose sur lequel il y a de la concurrence internationale et où il faut qu'on reste dans la course. Et donc ça participe aussi à ce rayonnement-là, comme le 14 juillet, hein, d'ailleurs.
Emmanuel Bachelry.
Ben voilà, je suis d'accord.
Parce que je
pensais quand vous parliez de à l'Australie, au Brésil justement, c'est un vrai savoir-faire français. Il s'en est vraiment servi. Il a parlé de souveraineté, d'indépendance, de liberté. Il a fait un discours très en hauteur, bien au-delà, entre guillemets, de la mise à l'eau de ce nouveau sous-marin.
Et alors, c'est pour des déploiements bien au-delà de nos frontières, et notamment pour l'Australie, mais aussi pour nous, en mer de Chine, où il va se passer sans doute beaucoup de choses dans les années à venir.
Et dernier point sur ce sujet, c'est Emmanuel. Ce qui est les sous-marins, parce qu'il y en a 2-3 à Brest, à l'île Longue, dans la rade. Mm-hmm. Il se trouve que pour la bonne info de nos auditeurs, depuis 1972, pas une seule seconde depuis 72, nous n'avons eu dans les différents océans du monde, on a toujours un sous-marin français en position. Toujours. Depuis 72, pas une seconde sans un sous-marin.
Maintien de la puissance militaire française dans les eaux du globe. Juste rappel, Clément Morin évoquait à l'instant le 14 juillet, nous allons revenir sur ces incidents survenus hier soir à la suite de la victoire de l'Algérie sur la Côte d'Ivoire en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur en déplacement à Nîmes, a fait cette mise en garde.
Le foot, ça n'est pas ça. Le foot, ça n'est pas attaquer les forces de l'ordre. Le foot, ça n'est pas attaquer des devantures de magasins. Et donc, c'est totalement inacceptable. 74 personnes ont été interpellées dans ce cadre-là et seront mises à disposition de la justice. Ceux qui se sont livrés à cela méprisent au fond à la fois les valeurs du sport, les valeurs du football, mais aussi le pays dont ils ont célébré la victoire dans ce match.
Voilà, ministre de l'Intérieur, Soisy Kemener, il y a eu cette maman tuée, c'est à Montpellier, avec son bébé grièvement blessé, une enfant également blessée. On avait oublié ces images de violence. Là, il s'agit de football, évidemment, de commémoration. Est-ce que c'est admissible? Le foot, ça n'est pas ça, dit Christophe Castaner. Nous sommes loin de l'esprit du sport. Hein.
Bien sûr qu'il a raison. Le foot, ça peut être de manifester sa joie, de manifester son allégresse après la victoire de son équipe, mais certainement pas des destructions. Certes, alors le cas de Montpellier, dont l'accident dramatique de Montpellier, c'est quelqu'un qui a perdu le contrôle de son véhicule. Mais c'est vrai qu'on est dans un climat qui est tout à fait déplorable après un quart de finale de football. Le football, effectivement, ce n'est pas ça.
Nous allons rester sur ce drame survenu hier et sur ces problèmes de sécurité que cela peut poser dans l'optique du 14 juillet. Pour l'heure, il est 20h50 sur France Info. Le dernier appel de l'info avec vous, Solène Cresson.
Ce sera donc une finale Roger Federer Novak Djokovic. Le Suisse vient d'écarter Rafael Nadal sur le gazon de Wimbledon. Victoire en 4-7, 6-7, 6-1, 3-6, 4-6. La rencontre, ce sera dimanche. Alain Finkielkraut se réjouit que l'appel à la haine ait bien été reconnu. L'académicien a réagi sur France Info après la condamnation de l'homme qu'il avait insulté en marge d'une manifestation de gilets jaunes. Il est condamné à 2 mois de prison avec sursis. Alain Finkielkraut ajoute qu'il n'aurait pas aimé qu'il soit condamné à 2 la prison ferme. Une manière très brutale et très inélégante, l'ancienne directrice de cabinet de François de Rugy s'est confiée à France Info ce soir. Nicole Klein a été limogée juste après les révélations de Mediapart sur le ministre de l'écologie. Elle avait gardé un logement HLM à Paris alors qu'elle n'y habitait plus. Dans Ouest France cet après-midi, elle a déclaré que le ministre de la Transition écologique avait voulu sauver sa tête en offrant la mienne. Fin de citation. Les évacuations continuent sur les côtes de la Louisiane. L'état du sud-est des États-Unis se prépare à l'arrivée de la tempête tropicale Barry. La Louisiane et la Nouvelle-Orléans redoutent des trombes d'eau potentiellement dévastatrices et des vents d'au moins 119 km/h. Carola Raqueteux et Pia Klemp, bientôt décorées par la ville de Paris. Les deux capitaines du bateau humanitaire Sea-Watch 3 obtiendront la médaille Grand Vermeil. Une façon pour la capitale de réaffirmer son soutien aux femmes et hommes qui œuvrent au sauvetage des migrants au quotidien, dit le communiqué.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-François Aquili.
Alors dans cette affaire de violence liée au football, le Rassemblement National demande d'interdire l'accès aux Champs-Élysées ce dimanche pour les deux demi-finales de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, Sénégal-Tunisie, c'est à 18h, et surtout Algérie-Nigéria à 21h. Nous sommes en même temps que les festivités du 14 juillet. Je vous propose d'écouter ce concessionnaire moto de l'avenue de la Grande Armée, dont le magasin a été dévasté. Il a déjà vécu la scène récemment et en d'autres circonstances.
On avait vécu tous les événements avec les gilets jaunes, où on avait dû fermer plusieurs samedis, avec notamment aussi cette même vitrine déjà cassée. Donc forcément, on peut être que désemparé. Je ne comprends pas pourquoi ils n'aient pas mobilisé plus d'effectifs, c'est clair. On sait très bien qu'en général, ce type de match fait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont susceptibles de venir, on va dire, faire du désordre sur Paris.
Chloé Morin, est-ce qu'il faut fermer ces Champs-Élysées? Est-ce qu'il faut revivre, au fond, dans d'autres circonstances, alors que c'est le 14 juillet, c'est la fête nationale, ce que nous avons vécu pendant des mois avec le mouvement des Gilets jaunes?
Alors, je crois que, surtout dans ce débat, ce qui me met mal à l'aise, c'est pas qu'on parle d'ordre public et qu'on débatte des meilleures manières de maintenir l'ordre public. C'est finalement donc c'est pas le débat sécuritaire. On a le droit de se poser la question de comment maintenir la sécurité.
Ouais.
Ce qui me gêne, moi, c'est le débat identitaire qu'il y a derrière.
Exactement.
Et en fait, c'est parce que c'est l'Algérie. C'est parce que il y a le drapeau algérien, etc. On sait, on a déjà eu ce débat-là mille fois.
Vous pensez qu'il y a des arrière-pensées identitaires dans le débat?
Mais évidemment,
c'est pas
un hasard si le Rassemblement National est le premier à sauter sur la question. Mais même dans l'opinion publique, je pense que profondément, ça remue quelque chose qui est de l'ordre. Voilà, on sait qu'il y a un malaise identitaire, un rapport à l'Algérie en particulier. Qui est problématique pour un certain nombre de personnes. Et finalement, c'est ce débat-là qu'on traite. Du coup, on traite mal les deux débats. C'est-à-dire que on assimile une petite poignée de casseurs à l'image d'un pays, etc., alors que on a vu la manière dont la révolution en Algérie se passe de manière pacifique, etc. Et puis de l'autre côté, ça permet aussi pas de traiter sereinement la question d'ordre public, de sécurité, etc.
Virginie Le Petit, quand on voit ce qui s'est passé à Tours, où des casseurs, on va dire, se sont retrouvés place Jean Jaurès, quelqu'un a décroché le drapeau français pour le remplacer par un drapeau algérien. Est-ce que cela provoque pas, justement, chez certains, forcément, ces réflexes, comme le dit Chloé Morin, identitaires? Ça part de faits réels. Il y a eu des violences. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre ce sentiment-là qui est répréhensible? Voilà.
C'est ma question. Lutter contre le racisme, en fait, c'est ça que vous êtes en train de me dire. Parce que...
Ce sont des manifestations de supporters, en réalité.
Alors oui, à la base, ce sont des manifestations de supporters qui font suite à la victoire de l'Algérie en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations, on est bien d'accord. Alors le gros problème déjà, c'est que, pour le coup, dans les médias, moi j'entends, des Algériens se sont réunis et se sont rassemblés. Ces gens sont français, ils défilent sur les Champs-Élysées. Donc déjà, ce qui serait bien pour commencer, c'est de ne pas dire n'importe quoi.
Ce sont des supporters de l'équipe d'Algérie.
Voilà. Mais ça, on est d'accord.
C'est pas du tout la même chose.
Et voilà.
C'est pas ce qu'a dit le Rassemblement National.
Et la deuxième chose, c'est que, de toute façon, après, Voilà, il y a deux débats en un, c'est exactement ce que vous avez dit, et il faudrait traiter les deux de façon assez dépassionnée. C'est très compliqué quand il y a, comme c'est le cas ici, un décès. Et là, ça devient, on est passé de quelque chose d'agaçant, comme vous le disiez, à une vraie tragédie, et là, ça complique encore plus les choses, et ça devient très triste.
Emmanuel Bachellerie, pour conclure, c'est un débat d'ordre public pur, finalement. C'est du hooliganisme qu'il faut savoir traiter dans la rue.
Oui, mais enfin, il y a eu plusieurs milliers de manifestations suite à la qualification de l'Algérie. Plusieurs milliers de manifestations et il y a 74 interpellations. Il n'est pas question de minorer ce qui s'est passé. Les images qu'on a vues sont déplorables, détestables et très lourdement condamnables. Il n'y a pas de débat là-dessus. Le vandalisme sur deux ou trois concessionnaires de motos venus de gendarmerie, c'est éminemment condamnable, et je ne parle même pas de cette maman qui a perdu la vie parce que un individu a perdu le contrôle. Là-dessus, il n'y a pas de débat. Voilà, la justice doit faire son travail et condamner. En revanche, en juillet 2019, en France, qu'un parti demande l'interdiction à des supporters algériens le défilé en cas de nouvelle victoire de l'équipe, c'est proprement scandaleux. Parce que qu'est-ce qu'on va faire?
Vous soulignez la sémantique.
Qu'est-ce qu'on va faire? On va un supporter algérien, il est français de troisième génération, il est français naturalisé venant d'Algérie, il a un permis de séjour. Qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer les gens en haut de l'avenue. Donc c'est ridicule parce que c'est impossible. Donc on se sert d'un événement, certes, lourdement condamnable à des fins politiques détestables.
Allez, ce sera le mot de la fin sur ce dossier. Il est temps de conclure ces informés de France Info. Mais avec vous, Soazic Kemener, quelle est la une de Marianne cette semaine?
Alors la une de Marianne cette semaine, c'est plus que ce week-end, c'est partez en France, c'est ce qu'on propose à nos lecteurs.
C'est une très bonne idée. La une de Courrier International avec vous, Virginie Le Petit.
Alors, nucléaire, le retour de la menace, les arsenaux deviennent incontrôlables, tout le monde se retire des traités et il serait temps de s'en préoccuper.
Allez, merci à vous. Merci également à Chloé Morin et à vous, Emmanuel Bachellerie.
Bonnes vacances.
Oui. Alors, les informés demain soir, c'est avec Noé Da Silva. Et les informés continuent tout l'été. Je vous retrouverai avec plaisir, évidemment, à la rentrée. Mais à partir de lundi, les informés, ce seront sous la baguette de mon ami Frédéric Carbone. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.